Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 29 septembre avec le journal de Sébastien Logénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par un pass sanitaire qui reste dans la boîte à outils.
Son usage devait s'arrêter le 15 novembre prochain, mais le gouvernement se réserve le droit de l'utiliser jusqu'à l'été, annonce du porte-parole du gouvernement qui veut, dit-il, se donner la possibilité de recourir au pass si nécessaire. Décryptage et réaction avec le service politique. La guerre du poisson refait surface entre Français et Britanniques. À peine une centaine de bateaux français ont été autorisés à pêcher dans les eaux de Jersey. Nous serons à Londres. Eux se sentent oubliés de la justice. Des victimes des attentats du 13 novembre 2015, dont on ne connaissait pas le récit, sont venues témoigner à la barre du procès aujourd'hui. Nous entendrons l'un d'eux touché par un kamikaze du Stade de France. À suivre aussi des Libanais qui manifestent contre la suspension de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Des vapeurs toxiques mais sans danger pour le moment aux Canaries. Et puis une nouvelle instance audiovisuel en France pour lutter contre le piratage.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir, on va peser le coût d'un like, le coût en énergie, en tuyaux, en câbles, en transmission, en gaz à effet de serre, donc bref, tout ce qu'on imagine flotter dans l'air sans trop savoir comment ça marche, tout cela a une empreinte écologique très très haute. Vous verrez que tout ce qui est dématérialisé, comme on dit, eh bien en fait est bien matériel, bien lourd, bien polluant. Ça fait réfléchir sur nos pratiques et sur nos usages. Guillaume Pitron, qui a écrit L'Enfer numérique, est avec nous. À 19h20, un jour dans le monde, là aussi on va voyager, mais dans l'aventure de l'ARN messager. Il y a encore à peine un an, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde sait que les vaccins qui nous sortent du Covid sont des vaccins ARN. On a aussi lu et entendu beaucoup de bêtises. Ce soir, un auteur qui raconte l'histoire de l'ARN, un médecin qui y a participé, et vous, pour comprendre toute cette révolution, au 01 45 24 7000.
Inter.
L'exécutif donc entend se le garder sous le coude jusqu'à l'été prochain.
Le pass sanitaire mis en place en juillet dernier doit arriver à échéance dans un mois et demi, à la mi-novembre. Sa possible prolongation faisait débat ces derniers jours et ce matin, le gouvernement a donné une indication claire à la sortie du Conseil des ministres. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Le gouvernement veut donc maintenir cet outil encore plusieurs mois si la situation le nécessite, au risque que certains trouvent le temps un peu long.
Et cela reviendrait à accorder des pouvoirs exceptionnels au gouvernement pour encore 7 ou 8 mois minimum sans repasser par le Parlement. Impensable, notamment pour la droite du sénateur Les Républicains Philippe Bas.
Nous ne faisons pas de chèque en blanc. Quand il y a restriction aux libertés, il y a nécessité de vote régulier du Parlement pour vérifier que la situation continue à exiger les contraintes qui sont imposées aux Français.
Pour les oppositions, c'est clair, le calendrier parlementaire est un prétexte. Non, en enjambant la présidentielle, Emmanuel Macron cherche tout simplement à s'éviter un débat sanitaire en pleine campagne. Accusation balayée par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement souligne que 10 textes ont déjà été soumis au Parlement depuis le début de la crise et rappelle que ce n'est pas le pass qui serait prolongé, vous le disiez Sébastien, non, ce serait la possibilité d'y recourir.
L'enjeu, c'est de dire qu'on va se donner la possibilité de reprendre des mesures si c'est nécessaire. C'est garder un certain nombre d'outils dans notre poche pour pouvoir les réactiver, les réutiliser si jamais la situation sanitaire le permet. Mais évidemment, notre souhait, notre espoir, c'est que ça ne soit pas le cas.
Le texte de prolongation sera en tout cas présenté le 13 octobre en Conseil des ministres, voté forcément avant le 15 novembre au Parlement. Le débat sera animé, on l'entend, mais d'ici là, l'exécutif espère que le pass aura été supprimé pour presque tous les Français, ce qui, nous dit un ministre, prouverait la bonne foi du gouvernement.
Simon Le Baron, service politique d'Inter, merci. Au chapitre sanitaire encore AXA qui donne à ses clients restaurateurs un peu plus de temps pour demander une indemnisation liée au confinement. L'assureur, plusieurs fois attaqué en justice, prolonge jusqu'au 15 novembre, son offre pour solder les litiges à l'amiable. AXA qui propose une enveloppe de 300 millions d'euros pour 15 000 de ses assurés. Encore insuffisant, estiment les professionnels du secteur.
Le dossier de la pêche qui envenime à nouveau les relations entre Paris et Londres.
Dossier explosif, on le sait depuis le Brexit. Les Français demandent à pouvoir continuer à pêcher dans les eaux poissonneuses du Royaume-Uni. Mais les Britanniques posent leurs conditions drastiques. Seuls les bateaux qui pêchaient dans leurs eaux avant le Brexit pourront continuer à le faire. Et il faut pour cela le prouver et décrocher une licence auprès des autorités britanniques. Or, à ce stade, le résultat est plutôt décevant. À Jersey, l'île anglo-normande n'a validé qu'une centaine de dossiers sur 175. Colère des pêcheurs français, colère aussi du gouvernement français. Décision inadmissible pour le porte-parole Gabriel Attal. À Londres, c'est la correspondance de Richard Place.
Lorsqu'il a signé l'accord de sortie de l'Europe au dernier moment, Boris Johnson portait une cravate couverte de poissons. Le Premier ministre britannique déclarait ainsi, une fois de plus, l'importance l'importance primordiale de ce sujet, pourtant marginal économiquement. Ce dossier avait empoisonné les négociations jusqu'à l'ultime minute, le voici donc de retour. Les eaux poissonneuses du Royaume-Uni sont l'un des terrains favoris des pêcheurs français et Londres décide de sérieusement le restreindre. C'est particulièrement vrai autour de Jersey, riche en bars, en coquilles Saint-Jacques et en homards. Les autorités locales rejettent là 75 demandes françaises. Jan Gorst, le ministre des Affaires extérieures de l'île.
Les tensions et le ressentiment s'exacerbent à nouveau, mais nous ne prenons pas une décision abrupte. C'est pour ça que nous donnons 30 jours supplémentaires pour les navires qui n'ont pas fourni suffisamment de documents et nous accordons le même délai pour ceux qui ont déjà pêché légalement dans nos eaux par le passé.
Pas suffisant, côté français, les autorités jugent ces décisions inacceptables et envisagent des mesures de rétorsion. Des pêcheurs se disent déjà prêts à un nouveau coup de force dans le port de Jersey. Londres, Richard Place, France Inter.
Et Paris qui ajoute ce soir qu'il se donne 15 jours avant de préparer des mesures de rétorsion. Dans l'actualité européenne encore, le conservateur allemand Armin Laschet au bord de jeter l'éponge. Pour la première fois depuis le scrutin de dimanche, le candidat de la CDU à la chancellerie, arrivé deuxième, a reconnu la victoire des sociodémocrates. Victoire reconnue également par la chancelière, elle-même Angela Merkel.
Ce sont des victimes dont l'histoire nous était jusqu'ici inconnue.
Des victimes oubliées des attentats du 13 novembre 2015, et notamment des attaques au Stade de France. Trois kamikazes ont actionné leur ceinture d'explosifs ce soir-là, tuant un chauffeur, Manuel Dias, et blessant une dizaine de personnes. Depuis hier, la Cour d'assises spéciale de Paris leur donne la parole pour la première fois, et parmi ces victimes, Atsa Pavlovic et sa femme. Il était vendeur d'écharpes le soir du match, touché par l'explosion du troisième kamikaze. Sa femme était aussi à quelques mètres.
Je voulais profiter du procès pour exprimer notre ressenti. Depuis ce fameux 13 novembre 2015, j'ai plus aucun but dans la vie, j'ai plus rien, j'ai plus de vie de famille, tout a été détruit. On est totalement oubliés, on n'existe pas. Il n'y a que les terrasses et le Bataclan. Les gens, ils ne savaient même pas, on est obligé de se justifier. Oui, on a été totalement abandonnés, aucune aide, aucun soutien. Ma femme est hémiplégique, paralysée, elle est comme ça dans son fauteuil. Pour s'habiller, heureusement, pour certaines choses, elle y arrive toute seule. Pour d'autres, elle a besoin de moi pour se lasser ses chaussures, fermer son pantalon quand elle met un pantalon. Si je suis pas là à côté d'elle, elle mange pas. C'est clair. Elle mange pas, elle bouge pas, elle sort pas, elle peut pas faire sa course, elle peut rien faire. Elle peut pas parler, elle peut pas s'exprimer. Si elle a envie de dire quelque chose aux gens, elle peut pas, elle est obligée de passer par moi. Je suis sa voix. C'est ce que j'expliquais à monsieur le président. Les autres victimes, ils ont leur famille. Ils ont leurs enfants, ils ont encore quelque chose qui les motive à aller au-delà de leur souffrance. Moi, j'ai rien.
Atsa Pavlovic, victime des attentats au Stade de France le 13 novembre 2015 au micro de Charlotte Piret. Valeurs actuelles, condamnées pour injures publiques à caractère raciste. L'hebdomadaire ultra-conservateur avait publié en août 2020 un article dans lequel la députée insoumise Danielle Obono apparaissait en esclave, dessinée avec un collier de fer au cou. L'auteur de l'article, le directeur de la rédaction et de la publication devront chacun payer une amende de 1500 euros. Lui défendait le courage comme valeur cardinal. Le caporal chef Maxime Blasco, 34 ans, a fait l'objet cet après-midi d'un hommage national aux Invalides. Son cercueil applaudi par la foule le long du pont Alexandre III. Il a été tué en opération au Mali. Le Mali averti froidement ce soir par la ministre de la Défense au Sénat. Si le Mali recourt à des mercenaires de la société privée russe Wagner, prévient Florence Parly, le pays perdrait le soutien de la communauté internationale et abandonnerait, je cite, des pans entiers de sa souveraineté. C'est un pays, lui, qui a totalement perdu le soutien et la confiance de ses habitants. Le Liban, secoué aujourd'hui par une nouvelle manifestation populaire, des centaines de Libanais se sont rendus devant et dans le palais de justice de Beyrouth. Ils dénoncent la nouvelle suspension de l'enquête sur l'explosion meurtrière du port de Beyrouth l'an dernier. Le juge en charge des investigations fait l'objet d'une plainte d'un ex-ministre impliqué dans l'affaire. Un déni de justice pour les manifestants. C'est le reportage de notre correspondant Aurélien Colli.
Des portraits des victimes, des pancartes pour dénoncer l'impunité, des maquettes de guillotine à l'intention des dirigeants. Les Libanais sont épuisés par la crise économique, mais exaspérés par la suspension du juge chargé de l'enquête.
On a droit à la justice non politisée, par classe politique pourrie. Il est temps de les foutre dehors.
Insupportable mépris de ces responsables politiques et sécuritaires qui refusent d'être entendus alors que leur responsabilité pour négligence est au minimum établie. Tout est bon pour empêcher la vérité d'éclater, estime Hélène, qui a perdu son frère dans l'explosion.
C'est la mafia qui manipule, qui croit qu'elle peut tout faire. Maintenant, c'est le peuple qui va les juger.
Aux côtés des proches des victimes, des Libanais lambda, des associations, des avocats qui n'en peuvent plus, eux aussi, de ce système politico-mafieux, Karim Daher est avocat à Beyrouth.
Ils ont une mainmise sur le pouvoir exécutif, sur le pouvoir législatif, et qui peuvent bloquer le pouvoir judiciaire. On est dans un système qui est totalement bloqué.
Pas de justice libanaise, alors c'est de l'étranger qu'elle doit venir, réclament les manifestants. Que font l'ONU, l'Union européenne, la Cour pénale internationale ou encore la France, dénonce Gabriel.
Macron me choque parce que quand on est le président du pays des droits de l'homme, d'un peuple qui est très solidaire avec les Libanais, on n'a pas le droit de laisser les hommes politiques agir comme ça. Et Macron peut les faire plier s'il le veut.
Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Déclaration ce soir du Quai d'Orsay. Les Libanais ont le droit de savoir. La justice libanaise doit travailler, je cite, en toute transparence, à l'abri de toute interférence politique.
Les habitants de La Palma, aux Canaries, le craignaient depuis quelques jours.
Le contact entre la lave incandescente du volcan en éruption Cumbre Vieja et la mer s'est arrivé cette nuit avec à la clé des émanations de gaz qui à ce stade ne sont pas dangereuses, notamment grâce au vent. Écoutez les explications d'Edouard Kaminski, les volcanologues à l'Institut physique du Globe à Paris.
Ce qu'il se passe, c'est que à cause de l'énergie thermique très importante qui est apportée par la lave à l'eau de mer rentre en ébullition à très haute température. Et donc ça va produire des vapeurs. Et ce sont ces vapeurs qui sont chargées d'acide chlorhydrique qui vont être dangereuses pour la santé. Alors malheureusement, c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée puisque en permanence, on a une nouvelle quantité de lave fraîche qui arrive et qui donc va entretenir ce moteur thermique qui produit finalement cette vaporisation et cette production de nuages toxiques. Donc le danger reste permanent tant que l'activité est là. Comme c'est un gaz acide, il est dangereux pour les voies respiratoires, il est dangereux pour la peau, mais ce sont des panaches qui sont assez turbulents, qui vont être dispersés par le vent. Donc effectivement, si on n'est pas très proche de la coulée, ce sont des phénomènes qui vont être assez rapidement dispersés.
Le professeur Kaminski avec Sophie Bécherel.
Son nom est un petit peu barbare, mais elle doit lutter contre le piratage audiovisuel.
L'ARCOM pour Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique. Cette nouvelle institution a été définitivement adoptée ce soir par les députés. L'ARCOM, c'est la fusion entre le CSA, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, et Hadopi, la Haute Autorité pour la Protection des Droits sur Internet. Un projet qui doit notamment permettre de lutter contre les plateformes de streaming, Alexandra Hakoun.
Pour lutter contre le piratage, qui selon les rapporteurs du texte adopté cet après-midi, représenterait chaque année un manque à gagner de plus d'1,3 milliard d'euros, le nouveau super régulateur aura d'abord pour mission d'établir une liste noire des sites portant atteinte de manière grave et répétée aux droits d'auteur et aux droits voisins, autrement dit les sites pirates. Cette liste, rendue publique, pourra appuyer les actions judiciaires des ayants droit. L'idée est aussi de responsabiliser les acteurs qui souhaiteraient passer des relations commerciales avec ces sites, histoire petit à petit de tarir leurs ressources. L'ARCOM sera également chargée de lutter contre la haine en ligne. Elle pourra notamment demander aux moteurs de recherche le blocage ou le déréférencement de sites miroirs, ces sites qui reprennent en totalité ou en grande partie les contenus d'un site condamné en justice. Le collège de cette entité, qui verra le jour le 1er janvier prochain, sera composé de 9 membres et son président sera nommé par le président de la République. Mais dans les faits, c'est l'actuel président du CSA, Roch-Olivier Maistre, qui occupera ce poste jusqu'à la fin de son mandat.
Allez, Alexandra Hakoun est toujours au chapitre audiovisuel. France Télé et TF1 qui assignent Canal+ en justice. Les deux groupes accusent la télé cryptée d'avoir diffusé des programmes en clair pendant le confinement. Concurrence déloyale, disent-ils, à suivre.
Merci beaucoup Sébastien. Et à tout de suite dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez d'une mini-vache, notamment une toute
avec
petite
plaisir.
Vache. Oui, absolument. Ce soir, on va plonger dans l'enfer numérique et vous verrez que vous serez beaucoup plus vigilant avec vos usages numériques juste après. En deuxième heure, je vous le remets dans l'oreille, la révolution de l'ARN messager raconté comme une épopée dans un livre que je vous présenterai qui permet aussi de revenir avec tout le recul que nous avons désormais sur cet ARN qui a changé beaucoup de choses dans la conversation médicale. Et nous pourrons aussi tordre le cou à toutes les idées reçues, toutes les bêtises qu'on a pu entendre sur cet ARN, essayer de comprendre comment toute la recherche est bouleversée pour les 10 prochaines années. Allez-y avec vos questions au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, Pour ma santé, c'est Via Santé.
Et Sébastien Léas, bonsoir Sébastien, une journée ensoleillée, voilà pour demain.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le soleil qui est revenu par le nord-ouest dès aujourd'hui va se généraliser demain. Et comme souvent en cette saison, ce soleil s'imposera après dissipation des grisailles matinales. Les nuages bas et brouillards seront généralement balayés rapidement, hormis le long des Pyrénées où il faudra attendre la mi-journée. Et puis le soleil sera prédominant, mais le ciel ne sera pas totalement tout bleu, hein, puisqu'un voile de nuages élevés viendra l'accompagner. Le matin, ce voile nuageux débordera sur la moitié ouest. L'après-midi, c'est le quart nord-est qui sera surtout voilé. À noter aussi des nuages qui vont devenir de plus en plus nombreux sur le Finistère à partir de la fin d'après-midi. Ce sont déjà les prémices d'une nouvelle perturbation pour vendredi.
Et des températures un peu fraîches.
Oui, le ciel dégagé de la nuit va favoriser la chute des températures. Au lever du jour, il fera seulement 2 degrés à Reims, 3 degrés à Orléans et Nancy, 4 degrés à Dijon, Limoges et Strasbourg et 8 degrés à Bordeaux, Cherbourg et Paris. Les maximales seront elles stationnaires par rapport à aujourd'hui, restant donc sous les valeurs de saison. Demain après-midi, il fera 16 à 22 degrés sur la majeure partie du pays avec 20 degrés pour Nantes, Grenoble ou Biarritz. Autour de la Méditerranée, les températures atteindront 23 à 28 degrés avec encore 26 degrés à Marseille et à Montpellier.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.